Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée aujourd'hui par Jérôme Sorel, que je remercie. Jérôme Sorel, vous pouvez aussi l'entendre au micro dans Rayon Libre chaque lundi à 14h. Voilà, on fait tout dans cette radio, il n'y a que moi qui ne sais pas faire la technique. Mais c'est pas grave. Alors, au programme de cette émission, on va parler d'un endroit assez formidable qui se trouve à Cahuzac-sur-Vair, dans le Tarn. C'est une maison de vie et d'accompagnement. On va en parler, elles vont nous décrire comment on y vit, comment on accompagne et ce que c'est que c'est cette maison, quelle est sa vocation. On va en parler avec sa fondatrice, Delphine Calicis. Bonjour.
Bonjour Eugénie, bonjour Jérôme.
Et bonjour à tous les auditeurs, tout le monde vous entend Delphine.
Bonjour à vous aussi.
Et vous êtes également à côté de vous, je crois, il y a une des maîtresses de maison de cette maison Astrolab. C'est Magali Priva qui est avec vous, c'est ça? Bonjour Magali.
Oui, c'est ça.
Voilà, vous êtes donc maîtresse de maison à la maison Astrolab. Alors la maison Astrolab, Delphine, est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord pourquoi vous avez décidé de fonder cette maison? Quel est votre parcours à vous qui vous a amené vers la création d'une maison d'accompagnement? Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une maison d'accompagnement?
Oui, donc je suis Delphine Calicis, je suis infirmière en soins palliatifs. J'ai exercé toute ma carrière dans les soins palliatifs. Et en tant qu'infirmière de réseau de soins palliatifs, on a été touchés par le nombre de personnes qui ne trouvaient pas de lieu pour pouvoir vivre entre le domicile et l'hôpital. Et lorsque nous étions au congrès de soins palliatifs à Nantes en 2008, on a rencontré Laure Ubidos, qui, pour le plan national des soins palliatifs 2008-2012, avait créé la première maison de vie à Besançon. Et donc nous étions cinq professionnels de santé au congrès et on s'était dit, eh bien, on va rentrer dans le Tarn et on va faire la même chose. Donc ça, c'était il y a très longtemps. Le projet, on avait créé une association. Le projet n'a pas pu tenir parce qu'on nous avait dit, écoutez, il n'y a pas de case pour ça. Revenez plus tard. Donc on a abandonné le projet. Et c'est en 2016 que on s'est à nouveau réunis, il y a eu d'autres opportunités, notamment avec la mairie de Cahuzac-sur-Vair. On a fondé de nouveau une association et grâce à la mairie, on a pu, alors bien sûr avec beaucoup d'aléas, pouvoir proposer un nouveau projet de maison d'accompagnement pour pouvoir accompagner des personnes en soins palliatifs. Ça, c'est vraiment le départ du projet.
D'accord. Et du coup, cette maison, elle est. Je crois qu'il y avait deux maisons un peu au départ. Hein. Il y avait une maison plus ancienne en ville où il y avait juste deux personnes qui vivaient. Et la maison Astrolab, celle dont on parle aujourd'hui, elle est carrément sortie de terre. C'est un bâtiment flambant neuf avec 12 chambres, 12 lits que j'ai pu voir et où c'est vraiment un bâtiment hyper moderne, climatisé, ce qui n'est pas un détail par les temps qui courent, et très confortable.
C'est vrai. Donc, en 2019, nous avions été voir l'ARS. On a travaillé avec l'ARS un cahier des charges pour la maison d'accompagnement et de soins palliatifs qui est flambant neuve. Nous n'avons pas été retenus. Donc, déjà, ça a été une difficulté pour nous en 2019. Donc, il n'y a pas eu de projet à l'époque. Mais la mairie avait une maison au centre du village qui était disponible, une maison de 4 chambres. C'était l'ancienne maison du receveur de la poste. Il l'avait déjà aménagé 4 chambres, 4 salles de bain. Et donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'on pourrait commencer là. Il y a des besoins, il y a des personnes qui cherchent des lieux en colocation. Ça nous permettra de déjà commencer. Et c'était bienvenu puisque tout de suite après, on a eu la période Covid. Et donc, c'est 3 personnes, même 4 personnes ont pu s'entraider pendant toute la période Covid à l'Oustal. Donc c'est une maison qui existe toujours, où il y a des personnes qui vivent en autonomie, qui viennent régulièrement à Astrolab. Là aujourd'hui, ils viennent manger tous les mardis. Et voilà, et ça se passe très bien.
Voilà, c'est un peu, pour le coup, à l'hostal, c'est un petit peu une alternative pour passer, quand on n'est plus tout à fait autonome, pour pouvoir vivre quand même un peu en colocation, en hors milieu hospitalier, en ayant toute l'aide nécessaire, surtout en n'étant pas seul, puisque les gens sont entre eux et ils peuvent s'entraider. Donc, on échappe à l'isolement, mais on n'est pas quand même dans une institution avec toutes les contraintes liées à un EHPAD ou à un hôpital.
Alors, vous me parliez de l'hostal, parce que l'hostal, c'est quand même nécessaire d'être autonome, ils sont tous seuls ensemble, et justement, c'est pour rompre l'isolement.
Oui.
Par contre, la maison Astrolabe, effectivement, c'est une maison de vie et d'accompagnement, avec le projet d'accompagner les personnes en soins palliatifs jusqu'à la fin de la vie. Nous, on a ouvert cette maison en 2023. Il n'y avait pas de cadre juridique pour les maisons d'accompagnement et de soins palliatifs comme il va y en avoir aujourd'hui. Et donc, on a ouvert avec les ressources que nous avions et nous avons ouvert pour des personnes vulnérables qui ne pouvaient pas rester seules à domicile, effectivement, pour rompre l'isolement. Donc, on a ouvert la maison Astrolabe en 2023. En habitat partagé, on va dire alternatif.
Mmh. Mais avec déjà des... J'avais rencontré des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, même jeunes, qui avaient des pathologies très lourdes et qui étaient effectivement en fin de vie, pas avec une échéance, peut-être qui ne se comptait pas en jour ni en semaine, mais qui étaient quand même avec des pathologies très, 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 très compliquées. Et vous étiez déjà en mesure de prendre en charge ces personnes et de les accompagner et en même temps de les associer à la vie en commun dans cette maison.
Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est aussi grâce au concours de la CPTS, de tous les professionnels de santé.
Alors, il faut développer les acronymes.
Alors, la CPTS, donc elles sont arrivées en même temps que le Covid aussi, en 2020. La CPTS du Grand Gaillacois, où j'ai pu être infirmière coordinatrice, elle fédère tous les professionnels de santé libéraux autour d'un projet de santé. Donc en 2020, on s'est réunis pour justement traverser la crise Covid et ça a permis de créer des liens encore plus forts que les liens que nous avions avec les professionnels avec lesquels on a monté le projet et qui s'engageaient à travailler dans la maison en tant que libéraux, les médecins, les infirmières, parce que la maison, elle fonctionne avec les ressources du territoire. Donc les infirmières libérales font les soins. En lien avec le réseau de soins palliatifs, en lien avec l'hospitalisation à domicile, en lien avec aussi les services d'aide à domicile. Nous avions Magali qui est maîtresse de maison avec moi et Sabine. Au départ, elles étaient les deux seules salariées. Et donc, on a mis ensemble toutes les ressources que nous avions pour accompagner comme à domicile, comme on le fait déjà, les personnes en soins palliatifs.
D'accord. Ça veut dire qu'en fait, en termes de reste à charge aussi, il y avait quand même une partie qui était prise en charge dans le cadre de l'aide à domicile, en fait, une sorte d'APA ou quelque chose comme ça, ce qui faisait peut-être un reste à charge qui pouvait être important hein, quand même pour les personnes, mais moindre que s'ils avaient juste loué un appartement dans un immeuble en colocation.
Disons que c'est tout un montage en fait. Les personnes qui viennent ici, elles ont tout un loyer qui n'est pas non plus. Il y a le loyer qui comprend le poste de maîtresse de maison qui s'élève à 1 330 € par mois sans manger, ce qui n'est quand même pas négligeable et ce qui n'est pas du tout le prix des maisons d'accompagnement aujourd'hui. Tel est le plan, la stratégie décennale. Et il y avait personne la nuit, ça c'est important de le préciser. Donc la nuit, c'est ça qui était inquiétant pour nous. Il fallait que quelqu'un puisse répondre, et ça c'était lié au bénévolat ou à l'HAD. Et les plans d'aide, en fait, permettent d'avoir plus de monde pour accompagner dans l'individuel.
D'accord.
Magali et Sabine sont, enfin en tout cas au début du projet, étaient les deux seuls salariés pour que la maison... fonctionnent bien et en plus elles étaient là pour le collectif. Mmh. Vous voyez ?
D'accord. Notamment pour l'aide à la composition et la préparation des repas, enfin, toutes ces choses. Voilà, il y a un rôle d'animation aussi de toutes ces personnes qui vivent ensemble.
Oui, peut-être que Magali peut, je ne sais pas si c'est le moment, présenter un peu ses...
Que Magali... Bonjour Magali.
Bonjour.
Vous êtes arrivée quand, vous, à la maison Astrolab, du coup? C'est quand a démarré votre contrat?
À l'ouverture.
D'accord, donc 2022-23?
Voilà. 1er février 2023, effectivement.
Ok. Et alors, est-ce que vous pouvez me dire, on va parler de votre métier et de votre parcours, mais peut-être que les auditeurs ont envie de savoir comment se passe. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de journée type, parce que comme dans la vie, chaque journée est différente, mais voilà, comment s'organisent les journées à la maison Astrolab?
Alors, les journées pour moi, effectivement, comme vient de le dire Delphine, il y a un collectif qui peut être donc maximum de 12 personnes. Et ensuite, les gens, ils ont choisi de venir dans cette maison. Par contre, ils n'ont pas choisi avec qui ils allaient habiter. voilà. Et je crois que notre rôle de maîtresse de maison, basique, enfin, en tout cas, il est que chacun puisse s'approprier cette maison, y vivre au mieux, et encore des projets dans cette maison ou à l'extérieur, et voilà, de fédérer un petit peu toutes ces personnes. Alors après, ça se décline sous des formes bien pratiques, on va dire. Vous avez déjà parlé des repas, par exemple, donc effectivement, on a un poste autour du repas qui est important sur le temps de la matinée. Alors effectivement, il faut que tout le monde mange à midi, mais effectivement aussi, c'est de se dire qui peut y participer, comment, ça peut être de façon très active en préparant un repas, en nous aidant ou en étant là et en lisant le journal. Voilà, il y a différentes possibilités de rendre ce lieu, cette cuisine vivant, dynamique, en fonction des gens qui sont là à un moment donné.
Je crois aussi que vous faites les menus un petit peu ensemble, en tout cas vous l'avez fait, parce que c'est très important, enfin, surtout quand on a perdu pas mal d'autonomie, le fait de choisir ce qu'on mange, de garder ce plaisir-là, de tester des nouvelles recettes, etc., c'est très important. Et je crois que vous, ça c'est quelque chose que vous mettez en place aussi, de composer les menus ensemble, de trouver des idées.
Tout à fait. Ça se passe le lundi matin et j'ai envie de dire ça lance la semaine quelque part. Mmh. Voilà, puisque les repas, c'est deux fois par jour, ça rime tous les jours et toute la semaine. Donc tous les habitants sont conviés à venir à 10h, 10h30 le lundi matin et ensemble on réfléchit effectivement au menu, à ce qu'ils aimeraient manger, mais aussi à ce qu'ils aimeraient peut-être préparer, parce qu'il y a des gens qui préparent des vrais plats complètement, ou qu'on aide un petit peu, donc ça c'est important. Voilà, donc et de se dire que c'est difficile de contacter tout le monde au repas, mais en tout cas si on se dit tel jour on aimerait manger ça, on peut contacter aussi l'un ou l'autre au cours de la semaine, et de se dire aussi que les repas on peut adapter, parce qu'il y a des gens qu'il faut en tout cas adapter dans la texture par exemple, dans la présentation, il y a différentes façons d'aborder le repas. Les gens qui préparent le repas se disent tiens tel jour il faudra que je sois prête un peu avant que je vienne, une autre je viendrai t'aider pour éplucher les crevettes, etc. Ça fait des petits projets aussi au cours de la semaine, le repas.
Bien sûr, oui ça fait l'air. Et vous faites pas que ça, je me suis laissé dire aussi que vous étiez des super animatrices de jeux, un peu comme à la télé, où vous faisiez des jeux de stimulation cognitive aussi, parfois assez costauds. Vous et l'autre maîtresse de maison, vous faites aussi, vous êtes aussi un petit peu animatrice, donc vous proposez aussi des activités à ces résidents.
Tout à fait. Alors, on leur propose ou on les invite à y réfléchir aussi. On a un conseil de maison une fois par mois qui permet aussi de dire qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la maison, qu'est-ce qui est judicieux, qu'est-ce qui est moins judicieux. Donc de se dire que, en tout cas, peut-être sur le temps plus de l'après-midi, qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble, dans la maison ou aussi à l'extérieur. Avec des sorties sur l'extérieur, avec un partenariat par exemple avec l'école du village, donc des enfants qui sont amenés à rejoindre Astrolab tous les jeudis après-midi en temps scolaire. voilà, qui viennent avec une animatrice, qui amène une petite idée à partager ensemble. Ça fait 3 ans que c'est effectif et on se rend compte les liens qui peuvent se créer entre les habitants d'Astrolabe et ses enfants et l'attente réciproque qu'il y a, par exemple, autour de cette activité.
D'accord. Il y a combien de personnes qui vivent en ce moment à l'Astrolabe ? De résidence, je veux dire.
Oui. Actuellement 10 ?
Oui, parce qu'il y en a, y a un monsieur qui arrive, une dame qui est décédée, un monsieur qui va arriver. Voilà, il nous reste une chambre de libre.
D'accord, bon bah c'est noté. Oui. Et il faut absolument habiter dans le Tarn pour venir à l'Astrolabe ou pas ?
Non, pas du tout, pas du
D'accord.
tout.
D'accord, ok. C'est d'autant plus noté alors. Alors évidemment, enfin, question peut-être difficile, mais une maison d'accompagnement, c'est des gens souvent âgés, en fin de vie ou malades, et donc les gens meurent. Comment ça se gère ça quand on a créé justement un collectif ? C'est des deuils à faire ensemble. C'est une partie, je pense à vous Delphine bien sûr, mais aussi à Magali qui est avec les gens toute la journée. Donc comment vous abordez ça ? Je suis désolée de poser cette question, mais elle me semble très importante.
Oui, elle est très importante. Je vais commencer et Magali va compléter. J'ai envie d'abord de dire que c'est un travail d'équipe avant tout. Et justement, dans l'accompagnement et dans plus quand il y a un décès, on sent bien qu'il y a tout un travail d'équipe et autant envers les habitants de la maison, autant envers les unes vers les autres, tout ce qu'on a pu vivre avec les habitants. Et on le voit quand quelqu'un décède, il y a une solidarité qu'on ressent tous. Chacun apporte quelque chose, fait un bouquet de fleurs, accompagne la famille, accompagne les résidents. Je sais que Magali, par exemple, elle va voir tout le monde, expliquer, elle veille à ce que tout le monde ait l'information. Souvent, on met une petite table avec une bougie pour dire, voilà, il est parti. Mais en même temps, tout le monde sait, mais donc c'est là où tout commence, en fait, d'aller voir les uns et les autres et surtout de veiller à ce que chacun vive la chose le moins douloureusement possible. Mmh. Akali, tu peux peut-être rajouter...
Oui, j'ai envie de rajouter que y a aussi les familles des gens qui sont décédés. Voilà. Et moi, je suis toujours agréablement surprise par ces temps parce que, entre guillemets, il y a aussi de très belles choses qui se vivent dans ces moments. Quand on peut reparler des gens, de ce qu'on a vécu ensemble, des choses de se dire on a eu la chance de rencontrer cette personne, effectivement, elle vient de décéder, mais on a eu une chance de partager avec elle des bons moments, de rire, de joie, de musique, même s'il y a eu d'autres moments plus difficiles. Et en tout cas, les gens de la maison sont très attentifs les uns aux autres. Et j'ai même envie de dire, surtout dans le temps de fin de vie, vraiment la fin de la vie, ils se préoccupent, ils rendent visite, ils demandent des informations. C'est très bienveillant dans ces moments-là, je trouve.
C'est assez formidable ce que vous racontez parce que c'est évidemment, il y a eu des études récentes qui sont sorties, notamment je crois que c'est les petits frères des pauvres qui ont fait paraître une étude. Les morts solitaires sont malheureusement de plus en plus nombreuses dans notre pays. Et là, on se dit que c'est une manière d'accompagner les gens jusqu'à la fin de leur vie qui fait que, au moins dans les derniers temps de leur vie, ils auront fait partie d'un collectif et du coup, leur vie va se prolonger à travers, par exemple, une chanson qu'on écoutera tout à l'heure qui aurait été choisie, enfin, en tout cas, qui est en hommage à un certain Patrick qui a passé beaucoup de temps à la maison Astrolabe que j'avais croisé d'ailleurs quand j'étais revenue vous voir. C'est une manière peut-être d'avoir une fin de vie qui se projette vers quelque chose, vers une prolongation dans la mémoire collective qui est assez belle et assez rare parce qu'en même temps c'est pas non plus ce qu'on peut voir dans les unités de soins palliatifs des hôpitaux où malgré tout les gens passent très très vite, ils y restent en moyenne 9 jours, donc même si certains ont pu marquer le personnel soignant, etc. déjà les gens ne se connaissent pas forcément entre eux. Là, il y a un vrai collectif et c'est vrai, c'est au-delà même du confort physique des gens. Il y a quelque chose au niveau, de l'accompagnement moral qui se trame, qui est assez unique. Ça, vous avez pu le faire valoir en fait, parce que la création de ces maisons d'accompagnement et leur reconnaissance enfin dans la loi sur les soins palliatifs, est-ce que c'est quelque chose qui a été pris en compte pour donner des budgets qui d'ailleurs sont peut-être pas suffisants, mais pour créer ces maisons-là?
Delphine, ah, peut-être. C'est quand même la vocation des maisons d'accompagnement que d'humaniser la fin de vie et qu'elle ne soit pas encore quelque chose de tabou. Ici, on parle facilement des soins palliatifs, c'est un mot qu'on prononce souvent, qu'on explique souvent, et on accompagne surtout les familles aussi jusqu'à la fin de vie. Ça, on est formé aussi, par exemple, au certificat de décès, ne pas attendre trop longtemps, de faire attendre des familles pour qu'un médecin vienne constater le décès. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont mises en place pour que ce soit plus facile pour les familles et les professionnels de santé, et que la fin de vie soit la plus apaisée possible et que les personnes n'aient pas peur ou ne se sentent pas mal accompagnées, comme on le voit souvent. On dit qu'il n'y a pas des soins palliatifs partout et pour tous, et c'est la raison de la stratégie décennale des soins palliatifs, en fait.
Et juste une petite précision, on a parlé bien sûr du fait d'entourer les gens, de les accompagner, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a des... Vous êtes de toute façon infirmière, donc vous connaissez la douleur, les médicaments, etc. Delphine, donc ça veut dire que les gens qui ont besoin d'une aide pour ne pas souffrir, vous êtes capable de leur apporter sur place, genre de l'oxygène ou des médicaments à la limite pour les sédater, ça vous avez, c'est possible en fait.
Oui, bien sûr. Déjà, on est formé aux soins palliatifs et toute l'équipe est en train de se former. On peut faire appel au dispositif d'appui à la coordination, donc les équipes mobiles de soins palliatifs pour leur expertise, leur accompagnement et aussi surtout la CHAD. Mais les infirmières libérales ou le médecin traitant et notamment le docteur Combe avec qui on a monté ce projet et qui sera médecin coordinateur quand on aura la labellisation, on l'espère bientôt, toutes les compétences pour accompagner la souffrance, la douleur de façon globale et pluridisciplinaire, enfin même interdisciplinaire.
Absolument. Non, mais je tenais à préciser qu'il y avait aussi toute la logistique sur place, hein, parce que c'est important que les gens ne pensent pas que, bon, ils vont être bien entourés, mais qu'ils auront mal. Ils n'auront pas mal. Voilà, enfin, c'est juste pour le dire.
Oui, la coordination est très importante et se parler est très importante. On a des outils, justement, pour que... On a comme une espèce de WhatsApp sécurisé où toute l'équipe de soins est en lien, en fait. Donc, dès qu'il y a un petit souci, on réagit tout de suite et on anticipe... des problématiques aussi.
D'accord. J'avais juste, avant qu'on écoute une petite pause musicale, je voulais avoir des nouvelles de votre infirmière Azalée. Je sais qu'Azalée va pas terrible. Donc, je sais qu'il y avait cette dame qui faisait notamment de la gym adaptée. Elle était dans une forme extraordinaire, d'ailleurs, dans mon souvenir. Et elle partageait ses trucs pour rester en forme jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce qu'elle est toujours avec vous?
Ouais, c'est gentil de parler d'elle. Nathalie de Combas, en fait, vous savez, donc on a eu un financement de l'ARS, tout petit soit-il, mais on en a eu un. Et donc, Nathalie a pris la place de présidente d'association, puisque moi, je suis maintenant salariée de la Maison Astrolab depuis décembre en tant qu'infirmière. Et donc Nathalie est bien sûr toujours avec nous en tant que présidente. Et il y a aussi Cathy qui est... infirmière Azalée, trésorière de l'association.
D'accord.
Et très impliquée, donc oui, autant dans l'activité physique adaptée que dans les ateliers mémoire, ateliers autour du diabète, enfin, tout ce qui touche à la prévention. C'est pas parce qu'on est en soins palliatifs qu'on ne va pas prévenir certaines difficultés.
Absolument. Et aussi, expliquer ce qu'est la santé aux gens, c'est très important. Jusqu'à la fin de la vie, c'est important de connaître son corps, de savoir pourquoi on fait ça, de pas... Voilà, c'est aussi une éducation, on va dire, à la citoyenneté et à la santé. C'est-à-dire qu'on a un rapport à la médecine qui n'est pas juste de l'observance, mais qui est aussi de la compréhension. Et ça, c'était déjà très net. Je pense que ça l'est toujours aussi. Voilà, et ça, c'est formidable.
C'est un lien précieux avec le médecin, parce qu'elle travaille... avec les médecins généralistes, donc elles sont un peu le lien privilégié avec eux.
D'accord. Eh ben, je vous propose qu'on écoute un peu de musique. On va commencer par votre choix, vous, Delphine, comme ça. On va écouter voilà, peut-être on l'entendra pas jusqu'au bout. On va écouter Bachung, Immortel, et on se retrouve juste après.
Jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviner que des dieux se cachaient sous des faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes. Les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois?
Voilà, on écoutait, c'était donc Alain Bachung sur Cause Commune 93.1 dans Liberté sur Parole. On parle aujourd'hui de la maison Astrolab, une maison de vie et d'accompagnement. Et on a un chien dans le studio, il s'appelle H, c'est le chien de Jérôme. Voilà, il participe à l'émission. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui lui arrive, mais c'est pas très grave, il est adorable.
Bon. Rassurez-vous, nous aussi on a.
Voilà,
on a
vous aussi, animaux. Vous avez des animaux. Donc voilà, c'est la vie, c'est le direct. Et donc on est outre avec le chien, on est avec Delphine Calicis et Magali Priva pour parler de la maison Astrolab. Alors cette maison Astrolab, c'est un projet, vous l'avez expliqué, hein, Delphine, qui a eu une vie, une maturation lente mais solide. Il s'y passe de très belles choses. Là, avec tout récemment, une loi sur les soins palliatifs, un grand plan de soins palliatifs a été enfin voté. Dans ce plan est prévue la création, d'abord avec une expérimentation d'une maison d'accompagnement par région. Je parle sous votre contrôle, Delphine. Et donc, du coup, là, il y a eu des appels à projets On peut discuter la méthode, c'est-à-dire qu'étaient en concurrence plusieurs projets dans chaque région et puis un seul était choisi, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça et c'est bien toute notre difficulté en fait, c'est de devoir répondre en plus c'était un dossier fastidieux.
Voilà, quel était en gros le cahier des charges, s'il y a des choses qui vous ont marqué dans ce cahier des charges, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Le cahier des charges, il est national, on peut le trouver facilement. C'est un cahier des charges qui reprend, ces structures seront des structures médico-sociales. Il y a une nouvelle case qui a été donc créée, qui comprend en général des petites structures de 12 à 15 chambres avec environ 15 ETP de professionnels de santé formés aux soins palliatifs. Et si vous voulez, ce sont des nouveaux établissements qui arrivent dans le paysage de la filière des soins palliatifs en complément de ce qui existe déjà.
D'accord. Avec, pour le coup, hein, ça c'est très important pour les patients ou les résidents, c'est pour le coup un reste à charge très faible qui est comme le forfait hospitalier en fait qu'on paye en soins palliatifs. Donc du coup, ça permet de financer, que cette fin de vie heureuse, ou en tout cas vraiment dans les meilleures conditions possibles, ne coûte pas plus cher que d'être à l'hôpital. Et c'est important parce que du coup, ça empêche toute discrimination sociale pour l'accès à une fin de vie correcte.
Ben oui, ça c'est toute notre grande difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas accès à la maison Astrolabe, ça coûte trop cher et c'est pour ça qu'on a une chambre de libre. Et nous, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était d'avoir cette autorisation et ce financement pour permettre justement un reste à charge minimum de 20 euros par jour pour les personnes qui en ont réellement besoin.
Et du coup, oui. Ça reste, franchement, moi, quand j'ai vu que c'était une par région, je me suis dit, il n'y a vraiment que 15 personnes qui ont besoin de ça dans une région. Ça me paraît presque dérisoire.
Oui, c'est sûr. Bon, visiblement, dans la stratégie décennale, il est question d'une maison par département.
Ouais.
Donc, d'ici 2034, j'espère que nous, on aura l'autorisation et les financements au moins l'année prochaine, en fait, parce qu'il y aura d'autres expérimentations qui seront annoncées. Et puis après, on attend les décrets d'application. Donc ça va dépendre de nos ARS.
Voilà, les ARS, on emploie cet acronyme depuis... C'est les agences régionales de santé.
Voilà, c'est eux qui donnent les autorisations.
Voilà, et ça dépend du coup de l'État. Hein. C'est vraiment de l'argent public. Et c'est la déclinaison régionale des politiques publiques en matière de santé. Donc, c'est eux qui accordent les financements. Je crois que c'était 1 million d'euros hein, pour...
Oui, c'est ça, 1 million d'euros.
Okay.
Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir un accompagnement de l'ARS en décembre 2025, donc c'est tout frais. Nous, on a un quart de financement uniquement pour pouvoir avoir quelqu'un 24 heures sur 24 et mon poste d'infirmière coordinatrice.
D'accord.
Donc pour le fonctionnement, on n'a rien du tout et pour les personnes, pas de reste à charge. Enfin, voilà, ils sont obligés de financer.
Oui.
C'est trop.
Oui, c'est trop, et effectivement. Comment dire, ce financement que vous avez là, qui correspond à un quart de votre budget de fonctionnement, est-ce qu'il est pérenne ou est-ce qu'à chaque fois, vous devez redemander chaque année, comme c'est un peu le cas pour les centres de santé communautaires ou ce genre de choses, qui font un travail formidable, mais qui sont toujours en train de courir après l'argent?
Non. On ne vous donne jamais un financement pérenne. Ça n'existe pas. Ça s'appelle des CEPOM. Alors, les CEPOM, ce sont des contrats d'objectifs pluriannuels et de moyens. Nous, on a un CEPOM de 3 ans, mais qui a commencé en décembre 2025 et qui se finira en décembre 2027. Donc, c'est un petit CEPOM. Mais dans la perspective d'entrer dans le droit commun avec les décrets d'application, ou d'autres appels à projets de maisons d'accompagnement et de soins palliatifs. Mais c'est fastidieux, c'est tout le temps travailler des dossiers, des financements, effectivement.
Et c'est autant de temps que vous ne passez pas avec les résidents. En tout cas, à chercher plutôt des manières d'améliorer leur vie. Mais bon, il faut ce qu'il faut, il faut trouver les sous. Mais bon, cette instabilité, elle est aussi un petit peu anxiogène, j'imagine. Mais même si ça devient la règle un petit peu partout aujourd'hui. Et du coup, là, c'est les les maisons d'accompagnement qui ont été choisies pour l'instant. Ça veut dire que d'ores et déjà, il y en a une qui peut ouvrir là tout de suite dans chaque région ou pas?
Bah, c'était la condition des porteurs de projet, c'est de pouvoir ouvrir en 2025.
Donc, en 2025 c'est ça. Mais on est en 2026.
Pardon, 2026.
Ah, d'accord.
Pardon. Donc, c'est cette année, donc on est en juin. Et c'est ça qui est un peu désolant, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir des financements. Donc, je pense que ce sera pas le million, ce sera la moitié du million. Mais donc, il y a des porteurs de projets qui vont ouvrir, non pas dans des lieux nouveaux, construits, mais ils vont déjà ouvrir dans des EHPAD ou dans des logements qu'ils vont louer pour en attendant de construire. Mmh. Et donc, c'est ça qui est désolant, c'est que finalement, ils vont ouvrir dans un endroit qui ne sera pas le lieu final, mais pour pouvoir avoir les financements et démarrer en décembre 2026. Donc, c'est vrai que c'est un peu désolant, alors que nous, on a déjà la structure. C'est vrai que ça nous a
mis en concurrence. Qu'on ne l'a pas dit, mais vous n'avez pas été choisi. Voilà, aviez un dossier béton. Tout le monde était venu vous voir. Vous avez reçu des ministres à n'en plus finir. Ouais. Et en fait, vous n'avez pas été choisi.
Oui, et même le projet qui a été retenu est venu l'année dernière. Et bon, moi, j'ai exprimé mes craintes, mes difficultés de nous mettre comme ça en concurrence. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que c'est désolant parce que ça nous met à mal auprès de nos collègues. Et alors qu'on devrait tous aller dans le même sens, s'entraider. Et voilà, ça crée des difficultés qui ne devraient pas avoir lieu d'être, en fait.
Non, c'est sûr que sur un sujet comme celui-là, mettre les établissements en concurrence pour avoir des financements, pour avoir le droit d'exister, c'est un peu contraire à toute forme d'éthique, dirais-je. J'assume ce que je dis.
Mais, et puis, on sait d'avance que certains sont visibles, en fait, et donc on va choisir ceux qui sont plus visibles au niveau politique que nous qui existons déjà. En fait.
Ah bah vous êtes visible physiquement, puisque de toute façon, cette maison, elle existe, elle a fait ses preuves, au-delà, enfin voilà. Mais après, bon, effectivement, il y a des questions d'entre gens, comme dans tous les domaines, où c'est pas forcément les gens qui font les choses qui obtiennent le droit de le faire, c'est souvent les gens qui en parlent le mieux. Mais bon, ça, encore une fois, c'est un travers de nos sociétés et du mode de fonctionnement où effectivement il faut faire des choix et les choix sont pas forcément faits sur les bons critères. Mais du coup, alors ça veut dire que pour l'instant la maison Astrolabe, elle n'a pas tout à fait elle n'a pas la possibilité de devenir une maison d'accompagnement au moins pour cette année avec un reste à charge faible, et donc ça veut dire que comme c'est trop cher, vous avez une place de libre. En fait, c'est un peu du gâchis de moyens là, il y a quand même un vrai problème.
Oui, bon, on a rendez-vous avec l'ARS bientôt, hein. Ils ont bien entendu notre problématique. J'espère qu'on trouvera une solution. Surtout que là, comme on a un financement de l'ARS, on accueille plus que des personnes qui sont en soins palliatifs et en fin de vie.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est... Et donc, oui, voilà, donc on pourrait proposer la chambre à d'autres personnes, mais là, nos critères, c'est soins palliatifs et fin de vie.
D'accord. Alors, juste pour que je comprenne bien, soins palliatifs et soins de vie, ça veut dire avec une espérance de vie très limitée, une maladie grave, pas simplement une perte d'autonomie et des handicaps liés à l'âge.
Oui, c'est une maladie grave, évolutive, qui ne permet plus, en tout cas, de vivre à domicile et qui ont besoin d'une... Vous savez, il y a une graduation, en tout cas, dans les soins. Donc, c'est pas complexe. Ce sont des personnes qui pourraient être à domicile, mais qui ne le peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'aidants, parce que leur situation médicale est stabilisée, mais qui, pour autant... l'évolution de la maladie fait que ils s'approchent de leur fin de vie.
D'accord. Donc en fait, oui, c'est peut-être mieux qu'ils arrivent dans un état stabilisé, disons, à la maison Astrolabe. Ça évitera le choc en pleine dégradation de leur maladie, d'être obligé d'être transporté à l'hôpital un peu en urgence, etc. C'est aussi un peu de douceur dans cette fin de vie.
Oui, c'est ça. Mais après, on travaille avec les tous les partenaires. Si pour une raison médicale, il y a besoin d'une hospitalisation, justement, on a des liens privilégiés avec les unités de soins palliatifs, avec l'hospitalisation à domicile qui peut venir à Astrolab. Enfin, on connaît tous les partenaires, on travaille surtout pas tout seul.
D'accord. Oui, ah ben ça, je crois que c'est dans votre ADN de ne pas travailler tout seul. Et pour terminer, alors, juste un peu d'ouverture sur l'avenir. Donc, vous avez ce rendez-vous avec l'ARS. Bon, la décision de ne pas vous choisir pour cette année, elle apparaît définitive ou encore amendable, on va dire?
On a eu la notification comme quoi c'était le projet de l'Aude qui était lauréat.
D'accord.
Ça, c'est sûr. Après, le directeur de l'ARS souhaite quand même soutenir notre projet. Et donc, il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu la semaine prochaine, pour voir comment on peut nous soutenir. Et nous, on a demandé l'autorisation de pouvoir ouvrir dès que les décrets d'application seraient en place.
On sait quand est-ce qu'ils peuvent être publiés, parce qu'il y a des trucs qui, sur la réforme des retraites et des décrets d'application sur la loi immigration, les décrets d'application, mais ça va à une vitesse incroyable. Et j'ai l'impression que pour d'autres sujets, bizarrement, ça traîne.
Oui, écoutez, moi j'ai contacté Annie Vidal, qui est la députée qui a porté la loi de soins palliatifs à l'Assemblée nationale. Elle a écrit à Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, voilà, pour dire qu'il y avait des projets qui étaient en attente. Donc j'espère qu'elle entendra nos difficultés et mettra rapidement les décrets d'application en place. Voilà.
Bon, eh ben, on croise les doigts. Et donc, du coup, on croise les doigts aussi pour que la maison Astrolab puisse remplir son rôle, parce que c'est vraiment d'utilité publique. Et puis, c'est aussi, je pense, pour toute l'équipe, et ça, Malgali pourrait un peu de pérennité, un peu de sérénité aussi. Parce que j'imagine que les postes sont sécurisés, il y a toujours un petit doute si jamais les financements n'arrivaient pas, si jamais on n'était à nouveau pas dans la bonne case.
Oui, tout à fait. Et puis effectivement, ça permet de passer vraiment au souhait de cette association depuis de nombreuses années, hein, et d'aboutir à un projet qui est très soutenu par Delphine, comme vous l'avez compris, et par une association. Là, j'ai envie de dire, on est un peu entre guillemets entre deux. Hein, ouais. Voilà. Et moi, je crois aussi beaucoup à l'équipe à venir, c'est-à-dire avec d'autres professionnels qui, pour l'instant, sont là, mais peut-être un peu ponctuellement, je pense à la psychologue par exemple, mais il y en a d'autres. Et voilà, moi j'attends et je crois beaucoup aussi à une équipe plus étoffée, peut-être plus variée, sur en tout cas le projet à venir.
Très bien. Je vous propose qu'on termine cette émission en écoutant une musique que Delphine m'a fait passer et qui est un petit hommage à un certain Patrick qui avait, je crois, une petite chienne. Et vous allez m'en parler juste après. On écoute quelques notes. Alors, j'ai oublié le titre. C'est La Peña quelque chose. Je ne sais plus. Jérôme va me dire.
La Peña Bellona.
C'est Ballona. Ça. Ballona. Voilà. Non, c'était pas Lolita quelque chose.
Ou alors la Dofa Lolita.
La Dofa Lolita. Voilà, c'est ça. C'est ça la chanson. Et donc, on écoute quelques notes, on se retrouve juste après.
L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée. Comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres, elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la goffa Lolita. C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la goffa Lolita. Et j'attrape Lolita
et je me prends une chapate.
Et voilà, donc cette petite chanson, vous écoutez toujours Cause Commune 93. Et c'est Liberté sur Parole. Qui d'entre vous, Magali ou Delphine, peut m'expliquer pourquoi ce choix?
J'ai envie de dire que Patrick a été très présent, il est resté avec nous 2 ans et demi. Il venait de Hague, il était chauffeur de car. Et il mettait toujours la musique dans son travail. Et donc, à Astrolab, c'était notre DJ. Il mettait une présence, sa présence au niveau de la musique et au niveau du personnage mettait beaucoup d'ambiance. Et puis, surtout, quand il est parti, eh bien, nous, on se rend compte que ça nous manque beaucoup, en fait.
Mmh. Voilà. Donc, voilà, pour la chambre qui reste, s'il vous plaît, trouvez-nous un DJ. Hein. Voilà, donc voilà, mais c'est aussi le fait qu'on passe cette chanson, que vous avez envie de parler de lui, ça veut dire qu'il y a aussi cette liberté de parole des gens qui sont morts en fait, mais qui sont toujours, qui font toujours partie un petit peu de la maison, qui l'ont habité, qui continuent de l'habiter. Il y a cette démarche-là, les gens qui ont passé du temps avec vous, ils ont laissé une empreinte, quoi.
Oui. Et on ne cesse d'en parler, hein. On cuisine aussi toujours les petites pommes de terre de Jeannette, qui nous a quittés il y a un an, par exemple.
D'accord.
Mais voilà, c'est des exemples un peu dans le quotidien, hein. On parle des gens et...
Je crois que votre téléphone est en train de rendre l'âme. Vous m'entendez toujours ? Ah, peut-être pas. Je crois que le téléphone de ces dames...
Je suis désolée, c'est une bêtise, pardon.
Ah, c'est pas grave. Alors, j'ai cru que le téléphone était déchargé. C'est pas grave, c'est les joies du direct, encore une fois. Oui, effectivement, vous disiez que vous faisiez toujours des choses en mémoire. Et je crois me souvenir même que, je suis désolée si je remue des choses, mais après ça, je pense que c'est pas très grave. Mais même dans cette maison, moi, je me rappelle d'un patio magnifique aux couleurs de la Grèce qui était en hommage avec une médecin qui avait accompagné tout le projet, puis qui était morte d'un cancer, peut-être avant de l'avoir vu réaliser, mais elle a son patio. Enfin, il y a le bleu de la Grèce qui est là. Et j'ai vu que vous aviez maintenant une fontaine verticale, mais c'est absolument génial là. C'est toute la beauté des choses est aussi toujours reliée avec des présences humaines et des gens qui ont construit ce projet.
Et oui, c'est toute une histoire cette maison et qui garde en mémoire tous ceux qui y sont passés. Et quelque chose que j'avais aussi envie de dire, c'est que tous ceux qui sont décédés sont morts et sont repartis par la grande porte. Souvent, les habitants font une haie d'honneur quand le cercueil s'en va. On met toujours de la musique, une photo. Enfin, en tout cas, on leur rend hommage aussi quand ils quittent la maison.
C'est formidable. C'est vraiment très émouvant parce qu'effectivement, on ne cache pas la mort chez vous. Pas au contraire, il n'y a pas de au contraire, mais en tout cas, voilà. Je crois que ça donne envie de venir habiter chez vous pour toute sa vie. En tout cas, voilà, j'espère que ce que vous venez de dire là, pour moi, c'est un des arguments imparables pour multiplier ce genre d'endroit et peut-être justement pour s'inspirer de ce que vous avez réussi à faire avec toute l'humanité qui est la vôtre. Et je parle de l'ensemble de l'équipe. Et écoutez, vous nous tenez au courant, vous nous tenez au courant du devenir de la maison Astrolab. On ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas un avenir et qu'elle ne puisse pas être accessible à tous ceux qui en ont besoin, dans la limite du nombre de lits. Mais effectivement, c'est aussi cette taille restreinte est aussi la garantie de toute cette humanité que vous nous décrivez. Donc il faut absolument multiplier ce genre de lieu. Le fait que ça a été décidé dans le plan pour les soins palliatifs est déjà une bonne chose, mais je crois qu'il faut prendre la mesure des besoins dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
merci
vraiment
à
vous deux et bonne continuation.
Merci, bonne journée.
On se quitte avec une petite musique basque que vous avez choisie aussi, je crois.
Notre cher petit Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Ou un arbre, on ne voit plus que ces gars-là. agents dogés ou bien partout à l'extérieur. Sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Sa joie sur ses terres.